podcast.com. Essaye ça.
On veut juste faire comme...
Oui, pour la première fois, on va effectivement l'officialiser. parce que, tu sais, avant, c'était ça.
Ago, bienvenue à Critique Exquise.
Oh, Bruno, il s'est lancé.
C'est moi qui ai pris le lead. Ça me tentait c'est... plus qu'on en jase. Je suis ce soir Bruno Corbin et je suis aussi accompagné de Milan Page-Shannon.
Hello.
Bonsoir Milan.
Bonjour.
Et de Florence Payette. On est un peu ce qu'on pourrait appeler la A-Team maintenant hein,
ouais, c'est
de
ça,
Critique Exquise. Donc, c'est ça. Si vous vous attendiez à voir Tommy, il ne sera pas là ce soir, mais prix de consolation, c'est de son sujet que lui a proposé qu'on va parler pendant qu'il n'est pas là.
Donc, sans lui.
Toutes les fois que Tommy ne sera pas là, vous pourrez penser à Tommy et au fait qu'il n'est pas là.
Il est avec nous dans notre cœur.
Voilà, il est avec nous dans notre cœur et dans notre thème. Donc, le devoir que Tommy nous avait donné, c'était de parler de films qui vieillissent bien. Si je me souviens bien. C'est un.
Et c'est
un
très terme. Large quand même comme parce que c'est quoi vieillir bien, tu sais? On peut dire, je sais pas, les effets spéciaux, l'histoire, le sujet, c'est
l'acting,
très large,
les thématiques, la direction photo, la narration. Écoute, il y a tu sais, pas toutes, certaines de ces affaires-là. Voilà.
Par contre, Bruno, tu as amené un point au début de l'émission, hein, il y a quelques instants. Tu as dit que ce soir, tu étais Bruno Corbin. Est-ce que ça veut dire oui. que demain soir, tu ne seras pas Bruno Corbin ou tu n'es pas sûr encore?
Mystère.
Ben, écoute, je vais te dire quelque chose. Mettons que je me base sur les souvenirs qui habitent mon cerveau en ce moment. Je pense que pas mal tous les soirs de ma vie, j'ai été Bruno Corbin. J'ai peut-être skippé quelques soirs, mais d'après moi, c'est pas mal ça. Puis sinon, ben, dans le futur, ben, j'imagine que si je pense que j'ai peut-être skippé quelques soirs dans le passé, il y en aura peut-être dans le futur où est-ce que je vais skipper. Tu sais, quand tu as, mettons, la gastro, puis que t'es supposé d'être en train de travailler sur quelque chose, puis t'as pas le choix, puis il faut que tu parles à du monde au téléphone, tu deviens comme une autre personne un peu. Je sais pas si c'était Bruno Corbin. Tu sais, pense à des
exemples.
Je
comprends ce que tu dis, puis ouais. J'approuve de ton message de c'est ça.
Oui, c'est ça, tu deviens comme 50% gastro, 50% Corbin.
Voilà, exactement.
Excellent.
Brustro cortéric.
Oh! Ça sonne comme une maladie bizarre inventée.
Ouais, voilà.
En tout cas, Florence!
Oui!
Hey. C'est toi qui commence.
OK. Moi, je suis allée dans le low-hanging fruit because of reason. Fait que moi, je vais soumettre Die Hard.
Ah!
Why not?
OK. C'est cool parce que je l'ai regardé il y a un mois.
Nice!
Fait que c'est encore frais.
Puis moi, c'est cool parce que je l'ai vu genre 20 fois, fait que je m'en souviens.
Voilà. Fait que moi, j'ai juste déclaré que Die Hard, c'en était un qui vieillissait bien. Il y a certains points, étant donné que nous sommes Québécois et que nous savons qu'est-ce que Hans Gruber dit, qu'on fait comme « Ah ouais, hein, t'es allé jusque-là », puis ça rend la chose encore plus charmante, puis encore qui vieillit encore mieux. Je trouve, puis ouais, l'action, les effets spéciaux, les personnages, puis le cast varié fait en sorte que, genre, j'aime quand même ça, puis que je trouve que ça vieillit bien quand même.
Ouais, effectivement, je ben, tu sais, aussi, comme beaucoup de films mettons qu'on parle de films d'action spécifiquement, qui font l'histoire, qui sont comme... Mm-hmm. Tu sais, Die Hard, c'est un point tournant dans l'histoire du cinéma d'action américain. Aujourd'hui, c'est super banal, cette histoire-là, mais à l'époque, déjà, d'avoir ce personnage-là qui est comme... Tu sais, Bruce Willis a été casté dans ce rôle-là, personne n'y croyait parce que les héros dans les années 80, c'était Arnold Schwarzenegger, puis
Sylvester
Stallone, puis Jean-Claude Van Damme, puis... Fait que tu avais besoin de cette espèce de gravitas-là, d'aucune émotion, on ne ressent pas la douleur. Puis c'est vrai que John McClane, dans les films subséquents, devient de plus en plus invincible. Mm-hmm. Il y a infini de HP. Mais dans le premier film, il pousse au bout de ses HP. C'est ça le but. C'est que dans le premier film, à la fin du film, il est poussé au bout de ses HP. Puis il ressent la douleur, il ressent des émotions par rapport à ce qui est en train de se passer. Son mariage est en train de tomber à l'eau, puis il se rend compte qu'il n'est pas un bon mari lui-même. Puis il y a comme tout cet arc-là aussi qui est important. Puis Bonnie Petilla qui joue Holly, qui est comme souvent sa performance passe un petit peu. Et sous pourtant, le radar comme... dans ce film-là, puis pff, ce film-là, il tient beaucoup sur ses épaules. Là.
Mais il y a aussi le fait que, genre, ce que j'ai trouvé vraiment cool aussi, c'est que la prémisse, c'est « ma femme est partie parce qu'elle a voulu faire une carrière, puis je m'en vais la rejoindre pour savoir si notre couple peut se rabibocher, puis si, genre, je m'en vais avec elle ou si elle revient avec moi. » Puis comme déjà, la prémisse est assez moderne aussi, tu sais, puis je vais être comme « c'est intéressant. » Puis non seulement ça, mais elle est bras droit de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Puis ça, je suis comme « yes, girl boss for real », tu sais.
Ouais, c'est la VP, là. C'est comme... Ouais.
Elle est pas incompétente, là. Elle est justement très, très compétente puis trop compétente pour le rôle dans lequel on veut la mettre.
Ouais, puis, pour la femme au foyer que John McClane voudrait avoir.
Puis comme lui, il y a des problèmes, tu sais, comme il y a... C'est un policier à New York, puis il y a eu aussi des problèmes en tant que police, puis tout. Fait que, tu vois, genre, toutes les espèces de ramifications de ce couple-là. Puis, non seulement ça, mais ce que j'ai trouvé très intéressant de ce film-là, ce que je trouve encore très intéressant, c'est que, contrairement à la flopée de films des années 80, les films d'action, le méchant ou les méchants ne sont pas une nationalité. Genre, tu veux pas dire genre, ah, oh, les maudits Allemands. Tu sais, non, c'est vraiment genre, c'est Hans Gruber, le méchant pas fin, mais c'est pas l'Allemand, c'est Hans. Tu sais, puis.
C'est ça. Il y a lui, il y a son crew, il y a ces deux Allemands qui traînent partout, pas depuis longtemps, probablement. Puis après ça, il y a le reste de la gang. C'est de tout acabit, là.
Exact. Puis comme, c'est un heist. Tu sais, selon eux, si c'était eux les protagonistes, c'était un heist movie. Mais genre, ils ont pogné comme la grosse roche dans leur plan, tu sais, puis c'était John McClane. Puis je trouve ça cool aussi que les seconds rôles soient joués aussi par des Noirs, puis comme qu'ils soient à l'extérieur de ça, puis qu'ils essayent de l'aider contre l'establishment. Puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment cool, tu sais. Fait que, bref, je trouve que ça c'est encore d'actualité, ce film-là. Puis c'est maudit que c'est le fun de regarder pendant le temps des fêtes. Fait que, voilà.
Ouais, je pense aussi que John McTiernan à cette époque-là, parce que maintenant il est viré sur le top un peu là, mais dans John McTiernan dans les il tire sur des affaires dans sa cour au Wyoming en ce moment, c'est okay, ça ses activités, il paraît. Écoute, c'est ce que j'ai entendu. Mais à cette époque-là, il y avait justement une espèce de tu sentais qu'il voulait faire du cinéma d'action, mais en même temps, il voulait comme adresser ces aspects-là de la masculinité qu'on n'adresse pas tant que ça, puis il voulait les subvertir, tu sais, puis je pense qu'un autre de ses chefs-d'œuvre, à mon sens, Prédateur, que j'ai failli mettre sur ma liste d'ailleurs, qui fait un peu la même affaire, sauf que là, il va vraiment all-in avec tous les gros bras, mais ça devient un slasher movie où est-ce que tous les gros bras sont pas assez forts pour se battre contre le monstre, tu sais.
Puis il y a aussi un plan de biceps non ironique, puis ça, je trouve ça fantastique.
Ah, ben, ouais. Écoute, il en met, tu sais, c'est un espèce, je pense, tu sais, c'est une parodie, le début du film, là, premières 30 minutes, c'est une parodie de film d'Arnold Schwarzenegger.
Oui!
Ben, tous les films d'Arnold Schwarzenegger sont pas mal une parodie d'un film d'Arnold Schwarzenegger, tu sais.
C'est
vrai. Mais c'est ça, je pense que, mettons, tu sais, j'ai l'impression que Commando, se prend un peu au sérieux, puis c'est pour ça que c'est aussi bon que ça. T'sais.
Qui est aussi d'ailleurs un film de Steven E. D'Souza et qui est donc dans le même univers que Die Hard.
Ben oui, effectivement. Et Est-ce que c'était supposé d'être la suite à un moment donné ou quelque chose du genre? Je sais que c'était supposé d'être la suite de quelque chose.
Non, mais dans le 2,
ouais.
Die Hard 2, il parle de...
je sais qu'il parle du... Ben, il y a le Valverde.
Il y a le Valverde, mais c'est le dictateur du Valverde.
C'est le dictateur.
Fait que c'est comme... Ouais. On ne sait pas si c'est une suite ou si c'est après, mais...
Ben, c'est dans le Sousa-verse, là. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est dans le Sousa-verse. Dans Predator, ils sont pas au Valverde dans le film, mais ils sont au Valverde dans la novélisation.
Oui. Predator aussi, c'est de Sousa?
Oui, Predator aussi, c'est de Sousa, oui.
C'est bon, hein? Arnold est plus qu'une personne. Ouais. Fait que, est-ce que c'est Predator, Commando, puis Die Hard? T'sais, c'est quoi le...
La séquence.
Ouais, je sais pas. Ben, il me semble Predator, deux ans avant Die Hard, un an ou deux ans avant Die Hard. Commando, probablement quelque chose comme 4 ans avant Die Hard, j'ai l'impression. Commando, c'est 84, je pense. Ouais. Okay, Predator, c'est 87, puis Die Hard, c'est 88, 89.
Oui, 88.
Ouais.
Intéressant. Intéressant. Yeah. C'était le fun de pouvoir remonter la Sousa-verse en un.
Il a fait une série télé qui était comme un espèce de K2000 avec un hélicoptère, là. Puis il y avait le Valverde dans cette série-là aussi. Donc, cette série-là aussi est dans le Sousa-verse avec le Valverde. Fait que voilà. Le Valverde, c'était le film épeurant. Ah ouais. Valverde, c'était le... Ben, d'ailleurs, j'ai aussi la novélisation de Street Fighter que j'ai pas lu encore. Mais à un moment donné, je suis tombé dans un hole de Sousa. Puis je regardais tout ce qu'il avait fait. Puis j'essayais de lire tout ce qu'il avait fait. Puis ouais, c'est...
C'est vrai, il avait fait Hudson Hawk aussi, qui est un film qui semble... Moi, je l'ai jamais vu, là, mais c'est un film qui semble être... avoir aidé la carrière à M. Bruce pas mal.
Ben, en fait, ça a été un flop, Hudson Hawk, mais...
Ah oui?
Oui. Ouais. Okay. Mais ça a comme pogné un cult following.
Ah.
Voilà. Bon. Ah, fait qu'on a parlé de Steven de Souza, on a parlé de John McTiernan. T'avais-tu quelque chose à dire sur Die Hard, toi, Milan?
Écoute, c'est excellent. Moi, j'ai regardé le premier et le deuxième. Et puis, donc, deux films de Noël, à Noël, avec de la neige. Écoute, je pas grand-chose d'autre à ajouter que c'était probablement une des meilleures performances de notre cher Willis qui s'est retiré récemment, hein, que dans le dernier épisode, on avait discuté de ça. Et puis, moi, j'ai vu ces dompes de Bruce Willis. Là. J'en ai regardé comme 4-5 dans les derniers mois. Puis après ça, je me suis dit que j'avais besoin d'un petit boost de qualité de sa part. Fait que j'ai regardé les deux Die Hard. Et puis, tu vois vraiment la différence de vouloir, d'acting et de tout le reste.
À un certain moment, je pense, de volonté, puis à un moment donné, c'était plus la volonté, c'était le corps qui suivait plus, là, on peut comprendre. Mais effectivement, même Die Hard 2, à la limite, c'est le deuxième meilleur Die Hard.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, Die Hard, ça a comme, on s'entend, là, créer plein de fucking spawn et de clones depuis que ça existe. Là.
Ok, oui.
Ouais.
Fait que.
Mais comme juste le fait que Die Hard existe tel qu'on le connaisse, c'était quand même déjà un miracle. Fait que si jamais vous êtes encore sur Netflix et que vous voulez regarder la série de Movies That Made Us.
Oui.
Puis il y a un épisode sur Die Hard et comment ils ont réussi à faire cette affaire-là. Puis c'est vraiment tout pété comme production. Fait que c'est vachement intéressant. Puis eux autres même disent aussi les erreurs qu'ils ont laissées dans le film, ce que je trouve vraiment cool.
Puis je pense que c'est dans le premier Die Hard où est-ce que Bruce Willis se fait tirer un coup de pistolet à côté d'un de ses oreilles et il a comme perdu une portion de son,
oui.
son earring son à vie, genre. Là. Ouais.
Mm-hmm. Ah ouais.
Je me souviens pas si c'est dans Die Hard, mais je sais que
oui,
c'est arrivé.
C'est dans Die Hard. Ça, hein? Ouais, c'est la scène où il est en dessous de la table et ouais, il fuit.
Oui, qu'il y a son gun juste à côté. C'est lui qui a tiré son gun trop proche de son oreille. Je me souviens.
C'est ça, il y a un des pétards qui a explosé trop.
Ouais.
Ouais. Ben, c'est quoi votre Die Hard préféré, pas avec Bruce Willis, autre que Die Hard, tu sais, votre clone préféré, mettons?
Puis, mettons... Ouf.
Et moi, je vais y aller en premier. Moi, je vais dire
Speed. Under Siege. C'est Speed. Moi, c'est Speed.
Moi, c'est Under Siege.
Ouais. Moi, c'est Speed. C'est sûr, c'est Speed. Ouais. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on parle, mettons, genre qualité. Under Siege, même Under Siege 2, il est vraiment drôle. C'est super le fun. Puis même White House Down, moi, j'ai eu du fun.
White House Down, c'est le pire.
Mais Speed, je pense que c'est comme... Il y a trop de... Le dialogue est trop bien fait. Genre, c'est comme si c'était un vrai bon film, Speed, tu sais.
Oui.
Oui. Ben oui.
Fait que, voilà.
Ouais, je suis pas mal dans ton camp, Bruno. Je pense que ça va être Speed pour moi aussi.
Puis votre pire, mettons. Puis là, quand je dis pire, je parle pas de genre...
The Asylum.
Ouais, c'est ça, là. Tu sais, quelque chose qui a du potentiel moyennement, mais que ça a juste floppé. Moi, je dirais, pire dans le entertainment, c'était le dernier Fallen avec Gerard Butler.
Oh oui, mon Dieu, qui est sweaty là-dedans. Ouais. Oui. Ben, moi, c'est un tie. Là. C'est, je pense que je vais te rejoindre avec Gerard Butler, mais pour moi, c'est Action USA.
Ah?
Parce que c'est en plein là-dedans, mais juste assez décalé pour sa ça hit pas de mark, really. Fait que, genre, c'est vraiment divertissant pour ceux qui veulent le regarder. La Action USA, c'est juste des explosions, là, littéralement. Puis c'est des explosions qui explosent soit en retard, soit en avance.
Ah, ça, on aime ça.
C'est vraiment wonderful. Puis c'est la caricature suprême de l'Amérique avec une fille gougoune qui essaie de... en fait, on sait pas si elle est intelligente ou si elle a comme... elle concusse, genre. Soit elle a eu une commotion cérébrale pendant tout le film, puis c'est pour ça qu'elle agit comme ça, ou juste qu'elle est dumb. Mais c'est un personnage qui est foncièrement haïssable, puis ça explose tout le temps. Fait que je vous recommande de regarder Action USA, si jamais vous pouvez le trouver.
Action USA, me semble que ça...
C'est 89, John Stewart qui a dirigé...
Puis tu sais, probablement pas celui qu'on connaît.
Non, c'est ça.
Ouais. Moi, je pense
Mitchell
que.
Mon... Est dedans.
Ouais. Je pense que mon plus plate, moi, ça doit être. Mon plus poche, ça doit être genre. Ben, tu sais, j'ai comme pas envie d'y aller, genre, dans le banal, tu sais, Passager 57, là, des affaires non, de même, tu sais. Mais Executive Decision, je me souviens que j'avais trouvé ça plate, là.
Oh boy.
Je l'ai regardé récemment. C'est le seul film que Steven Seagal meurt dedans.
Ouais, non, je sais.
Ça a tout pris à tout le monde pas, sur le crew pour qu'il meure.
Ouais, il voulait vraiment pas. Ben, c'est pour ça qu'il meurt de façon extrêmement héroïque, d'ailleurs. Là. C'était pas supposé d'être ça, sa mort au début, mais il a fallu qu'il donne une mort héroïque. Ou est-ce qu'il a comme pas le choix de fermer l'affaire, puis ploup, après ça, il disparaît, là. Quand il meurt, il disparaît de l'écran. Tu sais, pendant
ce film-là. Puis on n'en parle plus du reste du film. C'est comme s'il n'a jamais existé. Aucune mention.
Ben, il a probablement tellement fait chier tout le monde qu'ils ont tous coupé les références à son personnage après. Genre. Ouais. Sinon, il y a... il y a... comment ça s'appelle? Steve Sean Astin. Toy Soldiers.
Oui.
Ah, okay, oui.
Qui est comme un guilty pleasure pour moi. Si vous avez jamais vu Toy Soldiers, c'est comme Die Hard, mais John McClane, c'est un adolescent dans un boarding school qui est très, très resourceful, qui est un rebelle, hein, mais qui est très, très resourceful. Ça me touchait beaucoup dans ma jeunesse. C'est venu me chercher. Ça commence avec l'assassinat d'un juge qui se fait garrocher en bas d'un hélicoptère, d'ailleurs. C'est tout le temps le fun quand un film commence comme ça.
Par le moyen d'exécution, là, comme le plus weird. Genre,
voilà. C'était à l'époque où est-ce que ça arrivait assez souvent en Amérique du Sud, là, qu'il y avait des juges qui se faisaient assassiner. Fait que, voilà,
on a quand même aussi notre grand Will Wheaton dedans. Donc, toujours.
C'est vrai, il y a Will Wheaton qui est dedans aussi. Ouais. Ouais. Sinon, il y a Sudden Death qui est le meilleur film de Van Damme. Fait on est obligé de dire.
Est-ce que tu dirais que Deadly Prey, c'est du Die Hard? Pas tant.
C'est plus ça. Ouais. Ben, non, mais parce que non, parce que c'est un film de jeu de la mort.
Ouais.
Fait que c'est plus un Most Dangerous Game ou un.
C'est comme une arène de la mort.
Ouais, c'est ça. C'est ouais.
T'es pas assez vu Rambo. Deadly Prey, genre?
C'est le même film.
Ouais, c'est ça. Fait que, ouais.
C'est super bon, là. Oh, c'est le même film.
Fait que c'est super bon.
Mais c'est super bon parce que c'est il le refait, mais plus cheap. Avec des moins bons acteurs.
Excellent.
Puis c'est comme c'est tourné en digital, puis c'est pas beau, genre. Puis tu sais, fait que c'est comme ça sonne moins bien, il y a moins de folie. Fait que ouais, non, c'est vraiment très très bon. Puis il y a les trois hackers internet qui sont les trois rôles financés. Par le Kickstarter, dans le fond, là. C'était comme un des gars de Everything is Terrible, je pense. Puis c'était comme, tu sais, c'était tout du monde qui avait comme ramassé du cash. Puis, fait que t'as les trois hackers qui remplacent Cameron Mitchell.
Parce qu'il était mort.
Qui ont le même rôle que Cameron Mitchell, ouais, ouais. Finalement. Mais parce que Cameron Mitchell est mort dans le film et dans la vraie vie. Et d'ailleurs, ils se font tous tuer. Dans la même scène, là, c'est...
Je pense qu'on a fait le tour de Meurs dures.
Ouais, oui, voilà.
Bruno, je ne sais pas si tu veux y aller avec
OK. Mettons. Ben, j'avais fait comme une liste. Je n'étais pas sûr de quoi j'allais parler, mais je pense que je vais y aller avec le premier sur la liste, qui est aussi le premier de la liste de Criterion.
Oh.
Un film qui s'appelle La Grande Illusion, Jean Renoir. C'est un de ces rares films des années 30, 1937, si je ne m'abuse, qui ont presque aucunement vieilli. C'est un film qui relate un peu, je pense, les expériences de Jean Renoir pendant la Première Guerre mondiale. C'est un film de guerre, un des premiers, des plus importants, je dirais, films de guerre pacifiste, mais présenté vraiment d'une manière particulière, dans le sens où souvent, quand tu as un film de guerre pacifiste, le but du film, c'est de montrer les atrocités de la guerre et comment la guerre, c'est pas beau, puis que c'est pour ça qu'on devrait pas faire la guerre. Et puis dans ce film-là, l'optique, c'est plus de montrer que les soldats allemands puis les soldats français, c'est la même affaire, puis y a un respect mutuel, puis même si c'est tes prisonniers, tu les envoies pas chier, puis tu leur permets de recevoir des paquets de leur famille, puis ça a pas l'air si poche que ça, être prisonnier de guerre, dans le fond, tu sais, c'est juste comme un camp de vacances un peu, qu'une fois de temps en temps, tu te fais chicaner parce que tu vas trop loin, mais sinon, c'est à peu près ça, puis fait que cette espèce de vision-là, je trouve très en avance sur son temps, comme super. Puis, tu sais, on s'entend, là, il a sorti ça en 1937, puis on sait qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans.
Oui. En fait, ça commençait déjà à se passer pas mal.
Ben en fait, le film. Ouais, depuis 1933, mais la guerre n'était pas commencée.
Non,
c'est ça. Et puis le son film était justement, je pense, un peu un appel à la paix. Puis même lui, il était au courant, puis il l'a dit en entrevue. Tu sais, j'ai fait un film anti-guerre en 1937, puis en 2 ans après, la Deuxième Guerre mondiale éclatait. Fait que voilà, je sais pas si ça a eu un impact ou l'impact que je voulais, mais tu sais. Mais en même temps, le film a été banni en Allemagne. L'Allemagne nazie a tenté de brûler toutes les copies de ce film-là. C'est un film qu'on a failli pas voir. Tu sais.
Mm-hmm.
Puis ça aurait été très dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à ce film-là parce que, encore aujourd'hui, c'est un film. Puis tu sais, c'est un film qui, au-delà de sa force thématique, puis son scénario, puis son optique, son point de vue, c'est un film qui est divertissant. mm-hmm. avec d'excellents acteurs, une direction photo super belle, c'est fluide, il y a quelques petits bouts où est-ce que ça coupe un peu parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il restaure des négatifs puis tout ça, fait que tu sens l'âge du film, tu sais. Mais pour vrai, c'est un film qui a presque pas pris une ride. Je l'ai regardé avec ma copine récemment que j'aime ça y montrer des films qu'elle a jamais vus, puis elle pensait pendant qu'on le regardait que c'était un film des années 60 là, tu sais, elle avait l'impression, tu sais, c'est ce niveau-là de qualité de visuel, de direction photo.
Ils l'ont restauré dans les années 60, je pense.
Ben oui, effectivement, oui. Ils l'ont restauré dans les années 60, mais il y a quand même, tu sais, tous les choix au tournage qui filent très modernes. Puis fait que oui, c'est ça, c'était ça mon film numéro un que je trouve qui vieillit bien.
Excellent choix. Puis aussi je pense que Eric von Stroheim qui jouait le capitaine le
nazi,
lieutenant
ben, pas nazi, ben, non, allemand.
Ouais, s'il n'était pas encore là.
Ouais, c'est ça.
il était là depuis 33, mais pas. Il était pas encore.
Mais pas dans le film. Dans le film, il se passe pendant la Première Guerre mondiale. Voilà.
Mais je pense que Erich von Stroheim, c'est un Allemand d'origine juive qui a immigré après aux États-Unis. Puis qui a
joué. Je pense qu'il est autrichien même.
Oui, je fais ça. Je pense qu'il est autrichien d'origine juive. Fait que quand. Tu sais, je trouve ça ultimement super progressiste que genre, tu sais, il joue un général allemand. Puis qu'après ça, en fait, ça a débuté aussi sa carrière de. Il est allé aux États-Unis et il a fait aussi des méchants nazis dans les films aux États-Unis.
Ouais. Fait que, il a l'air d'un méchant. Il a l'air d'un méchant de James Bond dans ce film-là. Oui. Tu le regardes, puis il est comme. T'as l'impression que ça va être l'antagoniste quand tu le vois sur la pochette du film. Puis, c'est pas l'antagoniste, c'est juste un gars extrêmement détruit par la guerre que tu vois tous les ravages de la guerre sur ce gars-là. Mm-hmm. C'est une super belle métaphore.
Puis aussi, ne passons pas sous silence qu'il y a aussi Jean Gabin dans ce film et que... Si jamais vous faites la filmographie de Jean Gabin, passez par ça.
Ah, oh, définitivement. Ouais, Jean Gabin, ça, puis La Belle et la Bête, là. Calvaire, man.
Des incontournables. Voilà. OK, voilà. Si jamais, en tout cas, j'appuie solidement cette candidature dans le palmarès. Et que, allez-y, allez sur le Criterion Channel, puis louez ça, regardez ça, c'est important.
Fait que c'est ça. C'est sur mes épaules. Là. C'est, ouais. c'est là qu'on est rendu. Hein.
Pas de pression. Pas de pression, juste un peu.
Moi, la première chose qui m'est venue en tête, puis j'ai pensé plus au niveau effet technique, effet visuel, effet par ordinateur, un blend d'effets. De props et de locations réels et ajouter à ça de la CGI parce que hein, malheureusement, on est dans un monde de films à gros budget, à CGI pas mal souvent. Et puis, même si c'est bien fait, des fois, ça paraît. Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.
Yes!
À chaque fois que je re-regarde ce film-là, oui, il y a des choses que je remarque parce que ça fait, je les ai regardées souvent, mais quand ça fait longtemps que je ne les ai pas vues, on ne dirait pas que c'est un film qui a été fait en 2001 ou 2002 ou 2003, là, je ne me souviens plus de l'année exacte. Là, mais,
les trois.
Ben, c'est ça, oui, exact. Là, mais, je veux dire,
t'es tombé de rêve dessus.
Du premier, là, mais 2001, 2002, 2003, c'est ça. Fait que, voilà. Mettons, ça a commencé à filmer peut-être en fin 99, début 2000.
En plein
Ça fait quand même crissement plus qu'une vingtaine d'années, presque 30 ans dans quelques années. Donc, c'est des films que c'est incroyable la technique qui est allée en arrière pour blender toutes les façons différentes de créer des effets, du CGI mélangé avec des vraies personnes, tu sais. Il n'y a pas 400 000 orques, il y en a peut-être 50, par exemple. mais ils ont été capables de bien faire ça, puis ça paraît pas, ou du moins pour moi, l'illusion ordinateur, mettons, est très bien faite, si on compare à beaucoup d'autres choses qui sont faites aujourd'hui. Là.
Oui.
Puis je dirais même les moments où est-ce que, mettons, tu sens un peu, c'est surtout, là, je dirais, dans Le Seigneur des Anneaux, l'affaire qui va comme te le faire remarquer une fois de temps en temps, c'est le layering.
Mm-hmm.
Puis les moments où est-ce que le layering fait ça, c'est souvent des moments, de toute façon, qui sont extrêmement stylisés.
Oui.
Quand Gandalf arrive au top de la colline dans le deuxième film, tu sens le layering, mais c'est tellement stylisé visuellement. Ça a l'air d'une peinture plus que d'une image de cinéma. Fait que ça marche à cause de ça.
Ouais. Si, mettons, on parle de Gollum, qui est un personnage entièrement en CGI, même si c'est acté par une vraie personne en arrière. La façon que les couleurs sont traitées quand il est là, avec la technologie qu'il y avait à l'époque, fait en sorte que tu le sais que c'est en CGI. Là, je veux dire, c'était un peu évident, mais ça se remarque moins, ça fond plus, puis ça blend plus avec le reste de la coloration des moments qui est là. T'sais. Surtout dans le troisième, tout est plus comme gris-vert, plus fané, mort. Puis lui, il est pas mal gris-vert, fait que ça match quand même bien, tu sais.
Ouais, il y avait beaucoup de références aussi pour ça, là, justement, parce que Andy Serkis était sur le plateau pour vrai, puis il tournait avec eux autres pour vrai.
Mm-hmm.
Okay.
Ouais, puis non seulement ça, mais comme aussi, tu sais, je vais parler de l'adaptation, parce que c'est aussi important.
Oui.
C'est prendre la source, puis justement l'adapter. Puis en tant qu'adaptation, c'est une adaptation brillante d'un livre qui est jam-pack de cossins, puis dans lequel c'est facile de se perdre au niveau de l'adaptation, puis d'en retirer la substantifique moelle, puis d'aller jusqu'au bout, sans nécessairement comme détruire comme la source ou escamoter des affaires. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien
ça
pensé.
Ça manque de bouffe.
Ça manque de bouffe?
Ça manque de bouffe dans les films.
Écoute, je vais l'écrire pour ça.
Je trouve qu'il mange pas assez. Mais dans les livres,
ça mange pas assez.
C'est vrai que mange pas assez.
Je suis en train de relire le premier, j'ai presque fini d'ailleurs. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de nourriture que dans les livres. Fait que c'est bon, écoute, regarde.
Mais ça, c'est genre, à part que ça manque de bouffe, je trouve que c'est une adaptation très fidèle des livres. Puis que ça suit très bien une ligne directrice.
Il y a un changement que Peter Jackson a fait dans les films que j'aime pas. Mais le reste, je trouve qu'il a bien fait ça. Mais j'aime pas que Faramir soit séduit par l'anneau. J'aimais que ce personnage-là puisse exister. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça rajoutait de la nuance à la race des hommes d'avoir un homme qui dit ça m'intéresse pas.
Ouais.
Oui, parce que Aragorn n'étant pas vraiment un homme full-fledged.
Ouais.
C'est ouais, effectivement. Mais, tu sais, d'après moi, il a voulu faire un lien avec son frère.
Non, avec Boromir.
Ben, il voulait garder ça tendu aussi, je pense. Ouais. C'est un choix de ton plus qu'un choix narratif, là.
Exact.
Parce qu'en bout de ligne, il finit par faire le choix. Par faire le même choix que dans le livre. Oui. C'est juste que ça y prend plus de temps.
Exact.
Ouais.
Ben, c'est sûr que, on s'entend, là, c'est quand même des films d'action fantastique. Là. C'est pas... Puis, Le Seigneur des Anneaux, c'est un livre d'action, mais pas tant d'action. C'était quand même assez passif, puis c'est beaucoup de descriptions, fait que c'est sûr
c'est un livre de cuisine.
Ouais, voilà.
C'est un livre de voyage, puis après ça, c'est un livre d'action.
Oui.
Puis ça manquait de Tom Bombadil, mais bon, regarde, écoute,
c'est sujet à débat. Le débat est encore ouvert. Là.
Si c'était un film qui était fait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il l'aurait tourné, puis il l'aurait comme mis genre sur Internet, que ça aurait été comme un short, genre comme l'arrêt chez Tom Bombadil, genre.
Ouais, c'est comme c'est les saisons, tu sais, c'est comme c'est 24 épisodes, puis t'as comme dans les animés, t'as l'épisode de plage, toujours au comme 12 ou 13e épisode.
Ouais, c'est ça.
Ou de magasinage en ville, là, un des deux. Là, c'est la fin du monde, il y a la guerre, mais ah, ils vont à la plage cette journée-là pour relaxer. Fait que ça s'arrêtait ça, mais avec Tom Bombadil.
Mais c'est un peu ça aussi, en plus, tu sais, les films, ça file comme une mini-série, tu sais, qui se termine avec l'épisode de mariage, là.
parlant de mini-série, est-ce qu'on n'a pas hâte au nouveau truc d'Amazon de, je sais pas trop quoi, là, de Lord of the Rings, Rings of Power, ouais.
Moi, j'avais hâte quand j'ai vu le casting, puis quand j'ai vu les premières images, j'ai eu comme moins hâte. Mais genre, je vais quand même y laisser sa chance, parce que les images que je vois, c'est pas la série. Fait que je vais quand même...
C'est sûr que je vais regarder. Mais Amazon a fait de très gros faux pas de marketing là-dessus. Qui ont été retirés quasi instantanément. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va donner.
Ils ont fait que des faux pas de marketing, to be fair. Fait que, mais en même temps, c'est bad publicity is good publicity. Fait que...
Ouais. À suivre.
Le monde en a parlé. Après ça. Moi, j'ai l'impression que ça va pas m'intéresser. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, Amazon Prime, ils ont eu une de mes séries préférées de l'an passé. Fait que c'est correct.
On va lui donner sa chance.
Après ça,
on vivra le regret ou pas.
C'est ça. Il en sort une super bonne une fois de temps en temps. Là. Fait que, ouais.
Excellent. Est-ce que ça. Moi ça fait le tour. Je n'ai pas d'autre chose à dire sur Le Seigneur des Anneaux. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Puis,
ben, je pense qu'on a quand même bon range. On a eu un film fantastique, un film d'action, puis un film sur la guerre.
Finalement, il y a des morts dans tous les films qu'on a parlé.
Effectivement.
Excellent.
Okay. Mais on a un bon range.
Oui, effectivement. Je suis d'accord avec ça. On pourrait parler vite le Panoptique.
Yes.
Qui est une initiative de... C'est quoi déjà?
Panorama Cinéma.
C'est ça. De Panorama Cinéma. Excusez, j'avais oublié le nom. Qui est comme, dans le fond, un nouveau truc de streaming, pas streaming?
Oui.
C'est du streaming.
C'est
du streaming, mais c'est pas un service de streaming. C'est du on-demand, donc c'est pas un abonnement. L'abonnement est gratuit, hein, comme ils ont dit, mais il faut payer pour voir ce qui restaure. Et puis, ils restaurent... pour le moment, ils ont restauré des courts-métrages de Denis Côté avant ce qui a fait plus... long métrage, donc les kinos de Denis Côté, comme dirait Bruno. vous pouvez aller voir ça sur le trait d'union panoptique, hein, panoptique.ca. Oui, je sais. Vous pouvez aller voir ça si le cinéma de Denis Côté vous intéresse ou pour encourager un début de peut-être quelque chose.
Une initiative
de gens. Au Québec, de restaurer des œuvres.
Mais sachez que je viens de le tester et si vous tapez juste panoptique.ca, ça marche aussi.
Super! Ça veut dire que les webmestres qui ont fait ça, ils ont pensé à leur affaire puis ils ont acheté les domaines, tous les domaines pour que ça marche.
Voilà. Cool.
Excellent. Est-ce que ça clôt, genre? On est-tu rendu à dire que c'est notre break estival qu'on fait tout le temps puis qu'on n'a jamais calé jusqu'à aujourd'hui?
Mais qu'on le colle maintenant parce qu'on est legit, là.
On est legit. Avant, on n'était pas legit. Aujourd'hui,
ouais, c'est ça.
Aujourd'hui
qu'on
on
rendu,
a décidé que...
Vu qu'on est rendu legit, c'est notre break estival qui s'en vient. Officiellement, cette fois-ci. Les autres fois, c'était officieusement. Mais cette fois-ci, on vous l'annonce. On va arrêter de faire des shows pendant un petit bout de temps.
Fait que il n'y a pas de date précise, mais si on se fie à nos antécédents, hein, ça va être quelques semaines, peut-être voire un mois et demi là, avant. Fantasia 2022, qui d'ailleurs probablement va se faire en plus présentiel que l'année passée.
Yes. Mmh.
Donc, vous allez avoir notre couverture comme toutes les autres années passées.
Puis c'est ça, on devrait recevoir, pour ceux qui sont mordus de Fantasia, on devrait recevoir les annonces des films au début juillet. La sélection se fait encore à présent et la sélection devrait se terminer vers début juin. Donc, voilà.
Excellent. On espère des beaux œuvres encore une fois cette année. et des films d'horreur avec du monde qui vomissent de l'encre noire dans la face des autres, en face d'eux autres.
Toujours.
Tout le temps hot.
Puis qui rouvre la bouche comme ça, là. Ah, ça devient trop grande, genre.
Ouais, ouais, ça c'est hot, ça.
Puis là, les yeux. Là, ah,
ouais, c'est ça. Puis là, ça coule de l'encre noire parce que c'est le même peur, que ça fonctionne la physique.
Ouais. Voilà.
Excellent. Ben écoute, c'est ça. Je vais dire excellent encore, excellent. Puis, ben merci de nous suivre. On remercie Martin de podcast.com. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, genre, ça c'est une plateforme. Il y a Spotify qui est aussi une plateforme. Il y a le site de podcast.com qui est aussi une plateforme. Vous pouvez aller même télécharger le show.
Il y a Google Podcast.
Il y a Google Podcast. Hey boy, tu vois, moi,
il est une plateforme.
Il est une plateforme.
Ouais.
Écoute, il y a des trucs sur l'océan là, où est-ce qu'il y a de l'huile et du gaz. Ça,
c'est des plateformes.
Ouais,
On est là aussi. Chose,
plein de choses sont des plateformes. Sur ce, bonne semaine, bon mois de vacances de nous autres. Et puis, on se retrouve dans quelques mois.
Bye.
Bye.